La police est une très vieille institution et de tout temps, les citoyens ou même les esclaves ont toujours eu la volonté, le désir de se voir défendus. L'inquiétude qu'on a montée en épingle ces derniers mois, ces dernières années, de la sécurité qu'il faudrait recevoir de la part de l'État. Et en général, ça fait toujours le lit de la police et même éventuellement, et c'est peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir maintenant, d'un possible État policier. Alors c'est une institution qui est vieille comme le monde, et je voudrais juste citer très rapidement un philosophe bien connu du 19e siècle, qui était Friedrich Engels, qui écrit dans L'origine de la famille et de la propriété privée et de l'État, quelques notes qui sont très intéressantes. Il dit « Un caractère essentiel de l'État consiste en une force publique distincte de la masse du peuple. » Et il ajoute « Les Athéniens instituèrent donc, en même temps que leur État, une police, véritable gendarmerie d'archers à pied et à cheval. » Mais, là c'est intéressant, cette gendarmerie était composée d'esclaves. Ces métiers de sbires paraissaient si dégradants aux libres Athéniens qu'ils préféraient se laisser appréhender par un esclave armé plutôt que de se prêter lui-même à pareille infamie. Vous voyez, c'est intéressant. Il dit encore, l'État ne pouvait subsister sans police, mais il était encore jeune et il n'avait pas encore assez d'autorité morale pour rendre respectable un métier qui semblait nécessairement infâme. Je crois que c'est une des réflexions qui datent maintenant de 150 ans, qui sont vraiment frappées au coin du bon sens. Et quand on lit les divers ouvrages historiques sur la police, on s'aperçoit que, aussi bien à Sparte, et dans le même temps dans l'Égypte ancienne, dans les États hébreux de ce qui est maintenant Israël, il y avait des polices secrètes. À Rome, c'était tout à fait déjà mis en équation. Il y avait des polices par quartier, et tous les citoyens étaient mis sous haute surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Rome, les chefs de quartier portaient un titre assez intéressant. Il s'appelait Denunciatore. Et ce qu'on retrouvera plus tard à Venise, où on conseillait vivement aux citoyens de Venise de mettre des lettres de dénonciation. Si vous allez un jour place Saint-Marc, à l'angle du palais et de la place Saint-Marc, il y a encore un trou dans un mur où on glissait les lettres de dénonciation jusqu'au 19e siècle, 18e siècle. Donc c'est une institution qui a toujours existé. Dans la Chine antique, les cités étaient placées également sous la surveillance de fonctionnaires de police. Je voudrais passer un peu très vite. Hein. Au Moyen-Âge, en France, on voit apparaître les chevaliers du guet, qui sont un peu l'ancêtre de cette police bourgeoise qu'on verra apparaître plus tard avec le guet bourgeois qui complétait le guet royal. Le plus important, c'est de noter que ce sont dans les périodes de libération ou en tout cas de révolution où les plus actifs ont le sentiment de se libérer, de libérer les autres, que la fonction policière devient de plus en plus lourde et de plus en plus prégnante sur les populations. Par exemple, sous la Révolution française, un des premiers soins du comité de salut public, en 93, qui ne voulait pas se laisser manger la laine sur le dos par le comité de surveillance générale, a été d'instituer un peu des mouchards dans tous les quartiers et de créer la fonction de concierge, qui est extrêmement importante parce que la concierge suppléait à la police dans tous les quartiers. Ça a été mis en œuvre d'ailleurs d'une manière tout à fait exemplaire dans la Russie stalinienne, où toutes les concierges étaient des auxiliaires de la police. En France, c'est une pratique qui s'est un peu perdue dans la mesure où les concierges ont laissé la place aux gardiens d'immeubles. Mais jusque dans les années 50, le policier était toujours marié avec une concierge, ce qui d'une part permettait de ne pas payer de loyer. C'est important parce que les policiers étaient plus mal payés que maintenant. D'autre part, la concierge pouvait donner à son policier d'époux un certain nombre de renseignements importants sur ce qui se passait dans le proche environnement. La Révolution française, et surtout après la Révolution thermidorienne, après la chute de Robespierre, a vu se mettre en place un système policier tout à fait comparable à ce qu'il est maintenant, avec le modernisme en moins. Mais il y avait un ministère de police générale, avec Fouché, le célèbre Joseph Fouché, qu'on verra plus tard s'acoquiner avec un nommé Vidocq, qui était un rescapé des galères, et avec des divisions principales dans la police, telles qu'on les connaît maintenant sous d'autres formes, la voie publique, la surveillance et la sûreté, les mœurs et l'opinion, et un service qui avait déjà pour tâche à l'époque la surveillance des immigrés. Alors n'existait pas encore, ce qui a été dit tout à l'heure, le délit d'hébergement, parce que si on surveillait les immigrés, qui étaient désignés de par leur, non pas de par leur origine, mais de par leur rôle qu'ils jouaient dans le pays d'où ils venaient, il n'y avait pas tellement de chasse aux étrangers. Il a fallu attendre la période de l'occupation, là je fais un bond dans le passé, je vais revenir en arrière après, pour voir en 1941, l'amiral Barre, qui était préfet de police, en mars 1941, publier un décret instituant le délit d'hébergement pour les bons Français qui hébergeraient des Juifs pour chasser. Donc, il n'y a pas eu tellement de changement d'approche dans ce domaine. Pendant la guerre d'Algérie, il ne fallait pas héberger des militants du FLN qui étaient en cavale. Et puis je pense que nombre de militants bretons ont subi la dure loi de la police et de la justice pour avoir abrité des Basques ces 10 ou 15 ou 20 dernières années. Donc je pense que tout le système mis en place par Fouché sous la Révolution et ensuite sous l'Empire annonce déjà le rôle important de ce que sera la police et puis de la gendarmerie, dont Napoléon disait en 1806, en parlant des gendarmes, il faut des détachements stationnaires qui apprennent à connaître les localités et les individus. Quand on est en campagne, on s'aperçoit toujours que le gendarme, c'est un monsieur qui fait ami-ami avec tout le monde, qui va boire le coup, et qui est tellement proche des gens qu'il côtoie, qu'il est prêt à en référer à ses supérieurs. En ville, eh bien, il y a un peu l'équivalent avec les RG, qui font toujours ami-ami aussi, qui vous tapent dans le dos, qui vous payent le coup à boire éventuellement. Là, je rentre d'un débat que j'ai fait à Gérardmer la semaine dernière. Et il y a 10 ans, dans cette même ville, j'étais venu pour un débat sur le problème palestinien à l'époque, et en arrivant dans la salle, il y avait une seule personne qui attendait. Et j'avais écrit à l'époque un bouquin sur le problème palestinien. Il vient vers moi avec un livre à la main, maintenant de lui dédicacer, ce que je fais volontiers. Hein. Et quelqu'un me prend à part, mais tu sais qui c'est ce type? Je dis non, c'est le type DRG de Gérardmer. Donc toujours souriant, toujours gentil. À la limite, ils adhèrent même aux organisations qui organisent les meetings ou les colloques. Toujours très près de la population. Alors la police, elle connaît un développement d'autant plus rapide lorsqu'elle devient police politique. Et on a deux exemples tout à fait typique, sans faire d'amalgame, c'est la police stalinienne et la police nazie, donc le GPU et la Gestapo, qui contrôle non pas les opinions en général, mais chaque individu en particulier, et ce qu'on appelait en Union soviétique les organes était quelque chose de tout à fait terrifiant. On a eu d'une certaine manière l'équivalent en France sous l'occupation allemande. Et notre police française à l'époque a montré qu'elle avait tous les talents, y compris celui de travailler pour celui qui était désigné quelques mois avant comme l'ennemi héréditaire. Alors la police, elle est bonne à toutes les tâches. On l'a vu, là je passe un peu, hein, on l'a vu sous la Commune de Paris, celle qui avait rallié les Versaillais. On l'a vu un peu plus quand la République a été instituée à nouveau en 1870-71 et que La République, troisième du nom, a donné à la police des pouvoirs tout à fait insensés qui n'étaient pas connus jusqu'alors. Il est vrai que le mouvement social avait évolué. On commençait à la fin du 19e siècle à voir les premiers syndicats, les premières ententes, les mutuelles, les premières grèves, surtout importantes, coordonnées. Et à l'époque, il suffisait qu'un patron appelle la police parce qu'un atelier était en grève, et la police arrivait et cognait. On l'a vu dans la première décade du XXe siècle avec un ministre de l'Intérieur qui était très proche des communards 30 ans avant, je parle de Clémenceau, qui avait à son actif des fusillades d'ouvriers en grève, aussi bien dans la banlieue parisienne que dans les Vosges, où à chaque intervention, il y avait 10 morts qui restaient sur le carreau pour le seul fait d'être restés en grève. C'est dire que la police que nous connaissons maintenant et celle que nous avons connue à l'époque de l'occupation nazie, eh bien, elle n'avait rien à apprendre. Elle avait déjà fait ses classes et elle savait exactement ce qu'elle devait faire, le cas échéant. On a vu, là je passerai rapidement quand même, ce qui s'est passé sous l'occupation allemande, où dans la zone occupée comme dans la zone non occupée dite libre, ici c'était la zone occupée, ici à Bayonne, comment 120 000 hommes du corps de police national et municipal se sont mis immédiatement aux ordres des nazis, ont appliqué les consignes de la Gestapo, ont été au-delà de la consigne. Comment la gendarmerie a fait de même. Et quand on nous dit, ou quand on vous dit que les gendarmes ont été beaucoup mieux que les policiers ou moins mauvais, je crois que c'est une légende. Dans les camps de concentration qu'il y avait en France à cette époque, les gendarmes ont été souvent beaucoup plus féroces que les policiers eux-mêmes. Et autre degré d'intervention répressive, quand il n'y avait pas assez de gendarmes pour garder les camps de concentration de la zone occupée, on faisait appel aux douaniers, qui eux aussi savaient, connaissaient la manière. Et je vous donne un exemple intéressant sur la douane. Il y avait dans l'Orléanais deux camps de concentration où étaient internés des juifs étrangers, c'était à Pithiviers et à Beaune-le-Rolande, où les douaniers gardaient le camp faute de gendarmes. Et on a retrouvé dans les archives du Loiret une lettre de douaniers se plaignant à leur administration, c'est-à-dire le ministère des Finances, de ce qu'ils étaient s'étaient vu octroyer des fusils Lebel. Et ils disaient, ces braves gens, que ces fusils étaient inopérants, on ne pouvait pas tirer sur un interné en fuite parce qu'on ne pouvait pas tirer la cible, c'était des trop vieilles pétoires, ils demandaient du matériel neuf. Alors là, ils allaient également, au-delà de la consigne qu'on leur donnait de garder les internés. Il faut savoir également que un corps dépendant du ministère de la guerre, les pompiers, était considéré sous l'occupation comme force répressive également. Donc il y avait à cette époque, donc pendant ces 4 années, une population française qui était mise sous très haute surveillance. Et à partir de la fin de l'année 1943, c'est une sorte de sinistre voyou qui s'appelait Joseph Darnand, qui est devenu secrétaire général au maintien de l'ordre, et qui avait la haute main sur la police, la gendarmerie, la douane et la milice. Et quand on entend maintenant, lors des différents mouvements de policiers qui ont eu lieu ces dernières semaines, dégrader de la police des commissaires, demander que tous les corps de police, gendarmerie, douane et différents corps de policiers soient mis sous la coupe d'un seul ministre, eh bien ça rappelle de curieux souvenirs. On aurait pu croire que une fois la guerre terminée et la police épurée, tout ira mieux. Rien n'a changé pour une raison simple, c'est que la police n'avait pas été épurée, que les quelques 120 000 policiers qui avaient servi sous Vichy ont servi sous De Gaulle, que la gendarmerie est restée en place telle qu'elle était, de même que la magistrature et tous les corps de hauts fonctionnaires de l'État, à part quelques crapules un peu plus visibles que les autres et qui étaient fusillés pour l'exemple. Mais il n'y avait pas de volonté du nouveau pouvoir, je parle de Gaulle, de changer le piédestal institutionnel pour une raison simple, c'est que la France sortait de 4 années d'asservissement au nazisme et au pétinisme, mais que s'était développée peu à peu quand même au fil des années, très tard, mais quand même, une résistance effective dans les villes. Et De Gaulle ne voulait absolument pas qu'une force quelconque de police ou de gendarmerie soit l'émanation de ce qu'avait été la résistance. Donc il a fait un deal avec ceux qui avaient servi Vichy et les nazis, qui sont restés en place, le cas type, c'est Papon. Papon qui était secrétaire général de la préfecture de la Gironde et qui, à la Libération, est devenu préfet de la Gironde. Et De Gaulle, qui connaissait bien les hommes, savait bien que ces gens-là avaient tellement failli qu'on pouvait compter sur eux parce qu'ils avaient besoin de conserver leur place et lui pouvait compter sur eux également. La magistrature, ça a été pareil. Tous les magistrats sous Vichy ont été fidèles à Pétain, ont prêté serment d'allégeance à Pétain, ont demandé des têtes de résistants, et les mêmes magistrats, après la guerre, ont demandé des têtes de collabos. Le cas le plus intéressant, c'était le procureur général Mornay, qui demandait des têtes à l'époque de Vichy et qui a demandé la tête de Pétain à son procès en 1945. Alors bon, le problème, il n'est pas de dire que la magistrature, la police, la gendarmerie étaient plus particulièrement pourries. Ce sont des institutions qui sont dans leur rôle et sur lesquelles il ne faut jamais se faire la moindre illusion. On a vu à la Libération comment le corps le plus répressif qui allait à la chasse au maquis, qui était les GMR, a été remplacé par un nouveau corps en 1945 qu'on a appelé les CRS. Et les CRS, c'était un amalgame qui avait été fait. On avait mis dans le même corps d'anciens GMR repentis et des FTP qui sortaient des maquis. Et ça a donné les CRS. Et 2 ans après, un ministre très connu, qui s'y fait connaître plus tard encore, qui s'appelait Jules Mocq, a fait l'épuration dans les CRS, en a chassé les anciens résistants dont on se demande ce qu'ils pouvaient foutre là-dedans. Et les CRS sont devenus le corps exemplaire dans la répression en France. Je ne sais pas s'il était utile en 1968 de crier CRS-SS, il ne faut jamais faire d'amalgame, mais par la manière, par la méthode brutale, ça y ressemblait beaucoup quand même. Il faut savoir que ces CRS, nouveaux chiens de garde du pouvoir issus de la résistance, dès 1948 ont tiré sur les mineurs en grève dans le Nord-Pas-de-Calais, ont tiré sur les dockers à Marseille, c'était déjà 3 ans après la chute du nazisme, c'était déjà la préfiguration d'une république qui faisait pas la fine bouche sur la répression. Et là, c'est un peu au-delà de notre sujet, mais ne faut jamais oublier que le 8 mai 1945, alors qu'à Paris, on célébrait la victoire, eh bien le même jour, en Algérie, à Sétif et dans le Constantinois, étaient massacrées quelques 40 000 personnes. Massacre dans lequel avait pris part non seulement l'armée, mais également la police et la gendarmerie. Donc ce qui se passe ici dans le Pays Basque depuis quelques décennies, ça rentre finalement dans cette espèce de banalité de la répression bien connue, et il est sûr qu'on ressent ça beaucoup, beaucoup plus vivement quand ça se passe chez soi, dans son coin, dans son quartier et contre ses amis. Alors nous avons un corps de police dont on nous dit qu'il représente la moyenne des Français. Donc ils ne sont pas plus racistes que la moyenne des Français. Alors quand on apprend par les sondages que 30% des Français se déclarent racistes, que 30% le sont peut-être un petit peu et que 40% ne se prononcent pas, on peut évidemment se poser des questions. Et ce type de questions, je l'ai posé déjà, non pas à des auditoires, mais à des interlocuteurs policiers, en disant comment se fait-il qu'on puisse dire que les policiers ne sont pas plus racistes que la moyenne des Français, c'est-à-dire 30%, alors qu'il ne devrait pas y avoir un seul raciste dans la police. Il y a des écoles de police. L'école de police, ça dure 1 an maintenant. Et que s'il y avait un policier raciste, il ne devrait pas sortir de l'école de police, mais renvoyer dans ses foyers. Il en va de même de la brutalité, de l'aspect injurieux, du comportement, mais les choses étant ce qu'elles sont, quand on sort de l'école de police, on juge beaucoup plus le futur policier sur ses capacités physiques que sur ses connaissances en droit. Mais ça, c'est une vieille problématique, et on le disait très tranquillement quand Pasqua était ministre de l'Intérieur. Comportement raciste de la police, je vais vous donner quelques exemples rapides. Jusque vers 1955-56, le 14 juillet était une fête populaire un peu identique au 1er mai. Il y avait des grands défilés ouvriers dans Paris, et le 14 juillet 1953, par exemple, au sein du défilé populaire, s'était glissé un groupe de militants nationalistes algériens. À l'époque, c'était Messaliage, qui était un peu le porte-drapeau de la résistance algérienne, et le mouvement s'appelait « Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques ». Donc un groupe de ces militants était rentré dans le cortège. Il n'y avait pas de guerre d'Algérie, il n'y avait pas de raison particulière, et les policiers ont fait feu, ont tué 6 Algériens ce jour-là. qui étaient tous des ouvriers, parce que l'immigration algérienne à l'époque était relativement récente, était essentiellement composée de travailleurs, et souvent chez Renault, Peugeot ou Citroën. J'en arrive très vite, hein, mais ça c'est vraiment un préliminaire, ce qui s'est passé en juillet 1953. Dès la guerre d'Algérie, il y a eu une véritable guerre qui a opposé la police aux militants algériens qui étaient dans Paris, qui étaient malheureusement divisés en deux groupes qui étaient très, très durement adversaires, c'est-à-dire ceux qui soutenaient Messali Hadj et ceux qui, après 1956-1957, étaient plus proches du FLN. Et il y a eu, pendant les années de 1955 pratiquement jusqu'en 1962, un nombre de provocations policières tout à fait épouvantables dans Paris, des assassinats, des tabassages. Je pense que vous devriez, je vous renvoie aux différents ouvrages de Jean-Luc Enaudi sur le sujet, entre autres un livre paru au Seuil il y a 10 ans qui a été réédité à deux reprises, s'appelle « La bataille de Paris », où on montre les pratiques policières, où l'on voit comment, jusqu'en 61 et avant, le 17 octobre 61, des ouvriers algériens étaient agressés dans Paris, tabassés, assassinés. Le cas le plus tranquille, qui se terminait pas trop mal, c'était l'ouvrier qui sortait de chez lui à 5h30 du matin, avec sa musette sur l'épaule, et puis qui était agressé par des flics, qui le tabassaient, qui balançaient sa musette à l'égout. Ce qui fait qu'à partir de 1956-1957, eh bien, il y a des policiers parmi les plus violents se sont fait descendre. Il y a eu effectivement des policiers, je ne sais pas, 25 ou 30, qui ont été tués dans Paris, particulièrement dans les lieux les plus sensibles, comme le 18e arrondissement, par exemple. Et lorsqu'il y a eu cette répression féroce du 17 octobre 1961, ça faisait déjà des semaines et des mois qu'on commençait à trouver des cadavres d'Algériens qui descendaient au fil de l'eau sur la Seine. Octobre 61, c'est un point de repère parce que c'est encore plus violent que d'habitude. Je vous rappelle rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le détail, le préfet Papon, le même qui était préfet de Vichy, avait, depuis le mois de août ou septembre je crois, ordonné un couvre-feu pour les Algériens à partir de 20h, de 20h à 6h du matin. Et là encore, ça rappelait un triste souvenir puisque l'unique précédent datait de l'occupation allemande, où un préfet de police qui s'appelait Bussière avait ordonné un couvre-feu pour les juifs habitant la zone occupée de 8h du soir à 6h du matin. C'était pas la même chose, mais c'était un peu la même intention, retrancher du reste de la population. Mais là, pour le coup, c'était des gens qui étaient citoyens français. Il y avait 3 départements français en Algérie, que la France avait fait venir à force de bateaux enrichissant les compagnies maritimes pour redresser l'économie française qui en avait bien besoin. Et c'est à cela qu'on imposait ce couvre-feu. Il se trouve que la direction de France du FLN a demandé pour ce 17 octobre aux familles qui vivaient bien souvent dans les bidonvilles, dans la région parisienne, de descendre manifester pacifiquement dans Paris, tellement pacifiquement que tous ceux qui partaient pour de Nanterre ou d'autres bidonvilles étaient quasiment fouillés par leurs compatriotes pour voir s'ils n'avaient pas sur eux la moindre lame, le moindre petit truc qu'on aurait pu assimiler à une arme, où les gens s'étaient endimanchés, venaient manifester pacifiquement dans Paris, et Papon a organisé la tuerie, au prétexte que des flics auraient été agressés, et surtout au prétexte que depuis des années, on retrouvait des policiers morts, qui étaient pour la plupart ou des tortionnaires, ou des policiers qui avaient agressé des Algériens. Donc ça s'est soldé ce soir-là, on n'a pas le chiffre, mais on parle de 200, 250, d'autres parlent de 300 morts ou disparus. Ça a été un des hauts faits de la police de ce pays, et je voudrais ajouter à ce sujet, si pendant les 4 années d'occupation, les policiers français ont livré quelques 250 000 habitants de ce pays aux nazis, gaullistes, communistes, francs-maçons, juifs, ils les arrêtaient, ils les enfermaient, ils s'en débarrassaient. Là, ce jour-là, ils ont fait tout le travail eux-mêmes, ils ont interpellé, enfermé et assassiné. Et je crois qu'on n'a pas fait mieux dans l'histoire de la police française, et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de véritable reconnaissance de ce massacre en nombre. On a parlé de 3, c'était pas bon. Puis après de 40, c'est la commission Kern. Et puis on n'a jamais voulu trop loin dans le détail. On aurait pu penser cette année que la pose d'une plaque qui a été faite le 17 octobre 2001 allait quand même donner matière à réflexion aux Parisiens. Et bien sur cette plaque qui a été apposée sur le pont Saint-Michel, on ne dit pas qui a été assassiné, on ne dit pas le nombre et on ne dit pas par qui. C'est tout à fait ambigu et immonde, parce qu'il y a eu un deal qui a été fait au conseil municipal de Paris entre les différentes tendances, pour ne pas aller trop loin dans le détail ici, comme dit Le Pen. Alors, bon, octobre 61, c'est une étape sanglante parmi d'autres. Il y en a eu d'autres, des étapes sanglantes. Il y a eu mai 68, où comme un seul homme, tous les policiers des grandes villes ont matraqué, ont gazé les étudiants et ceux qui se joignaient au mouvement. Des milliers et des milliers d'étudiants ont été matraqués. On nous a dit qu'en mai 68, il n'y a pas eu de mort. D'abord, c'est faux, il y a eu plusieurs morts, 3 ou 4, c'est pas, on va nous dire que c'est très peu de choses. Mais comme il n'y a pas eu d'appel à témoins, on ne sait pas combien de ces étudiants qui ont été matraqués ou gazés ont souffert plus tard de lourdes séquelles, des traumatismes crâniens, des problèmes de respiration, etc. Alors, la police en France, c'est quelque chose quand même de relativement important. C'est le corps policier le plus important d'Europe, hein. En tout cas des pays démocratiques, je ne parle pas des autres, des dictatures où il y a beaucoup plus de policiers encore. Mais par exemple, en France, il y a environ un policier ou un gendarme pour 250 habitants, ce qui est déjà pas mal. 325 en Allemagne et 350 en Angleterre. 1 pour 350, alors qu'en France, c'est 1 pour 250. On est bien gardé. Alors, quand ils nous disent qu'ils ne sont pas assez nombreux, qu'il faut augmenter les effectifs en même temps que les salaires, il faut quand même savoir que dans ce pays où il y a 60 millions d'habitants, tous français à des titres divers, il y a environ 130 000 policiers de la police nationale, plus entre 15 et 20 000, on ne connaît pas le chiffre exact, de ce que Chevènement a appelé les adjoints de sécurité. Ce sont ces emplois jeunes qui, après 2 mois de formation, sont jetés dans la rue avec un revolver à la ceinture. Alors, à côté, vous avez environ 15 à 18 000 policiers municipaux, dont beaucoup sont armés. Vous avez 100 000 gendarmes, qui, eux, ont le droit de tirer pratiquement sans sommation, sans être en situation de légitime défense, ce que les policiers aimeraient bien, mais ils n'ont pas encore obtenu. Donc 100 000 gendarmes. Vous avez 120 000 salariés des sociétés de sécurité, et on en reparlera tout à l'heure, qui sont bien souvent des gros cons ou des petits salauds, qu'on rencontre le plus souvent dans les salles de culturisme ou dans les services d'ordre du Front National. Et on pourrait croire que ça s'arrête là. Maintenant, il y a encore les nombreux indiques, rétribués ou bénévoles. Il y a, hélas, les gardiens d'immeubles. Et puis, depuis que l'armée de conscription a disparu, je ne suis pas militariste, mais enfin, il faut faire le constat, nous avons une armée professionnelle de 250 000 hommes, dont certains généraux ont dit pratiquement publiquement ces derniers mois qu'il serait quand même important qu'un de ces jours l'armée puisse s'occuper des problèmes de sécurité intérieure. Donc, si vous additionnez tout ce joli monde que j'ai énuméré tout à l'heure, ben, ça fait environ 600 000 personnes, dont la plupart sont armées. Et je m'étais risqué un jour à dire, sous les hurlements d'une partie de l'auditoire qui était composée de policiers, c'était à Nancy, qu'en France, en période troublée, un Français sur deux était flic et l'autre pouvait le devenir. Bon, c'était un peu méchant, c'était un peu excessif, mais il faut savoir, et là c'est beaucoup moins drôle, que sous l'occupation nazie, il est arrivé à Paris 5 millions de lettres de dénonciation dans les commandantures de la Gestapo, dans les commissariats de police. Et c'était tellement important que la Gestapo finisse par mettre tout à la poubelle alors que la police française gardait tout. Il y a toujours dans ce pays des gens qui sont de fait et spontanément auxiliaires bénévoles de la police. Et si j'ai parlé de l'aide de dénonciation de la période de l'occupation, il faut savoir que depuis 1986, depuis les premières lois Pasqua, le nombre de lettres de dénonciation accru à une vitesse accélérée, et plus encore quand Pasqua est revenu au ministère de l'Intérieur en 1993 pour dénoncer de supposés sans-papiers. Alors voilà le pays dans lequel nous vivons. On n'a pas de raison d'aller vivre ailleurs, on est bien chez nous. Ce qu'il faudrait essayer de changer, ce sont ces institutions qu'on nous impose et dont on nous dit qu'elles sont indispensables pour qu'on puisse vivre en sécurité. Il y a quelques années, il y avait un sondage très intéressant qui était paru dans Le Monde, où il apparaissait que pour la majorité des gens qui demandaient de plus en plus de sécuritaires étaient ceux précisément qui étaient éloignés des quartiers dits sensibles. Et plus on s'éloigne des quartiers dits sensibles, plus on fait appel à la gendarmerie, à la police, plus on dit qu'on est en manque de sécurité. Moi, je ne sais pas, peut-être que je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi. Il y a sûrement des agressions dans le métro. Je n'ai jamais été agressé dans le métro à Paris. Ni maintenant que j'ai les cheveux blancs et que j'ai l'air respectable, ni quand j'étais beaucoup plus jeune avec les cheveux noirs. Mais si vous prenez dans le métro parisien, et particulièrement dans le RER, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Prochaine fois que vous êtes à Paris, faites un détour par la station Châtelet-Les-Halles, dans l'échangeur du Forum des Halles, vous verrez la densité policière qu'il y a là. De par le plan Vigipirate réactivé, vous voyez un peu partout des gendarmes ou des policiers accompagnés de paras avec des mitraillettes. Vous voyez des contrôleurs qui se conduisent comme des sauvages. Vous voyez ce corps qu'on appelle le GPSR. On les a vus aux informations hier, ils avaient des revendications à faire aussi. Le GPSR, ce sont de braves garçons d'1m90, crâne rasé, qui n'ont pas droit au port du revolver, mais qui ont autour de la ceinture un tas de bric-à-brac, la matraque tonfale, la bombe lacrymogène, les menottes, les gants pour ne pas salir les mains, que sais-je encore. Ils sont 1000 dans le métro parisien. C'est-à-dire que le métro parisien est devenu, tend à devenir, un lieu d'insécurité du fait de la police. Et on s'aperçoit, j'ai encore vu il y a une dizaine de jours, que quand on rentre dans le RER à Châtelet-Les-Halles, au lieu de trouver des équipes de contrôleurs qui de temps en temps se mettent de l'autre côté des tourniquets pour voir les fraudeurs, et bien souvent maintenant ce sont les policiers qui sont là et qui jouent les contrôleurs et qui embarquent, qui contrôlent au faciès, y compris ceux qui ont un titre de transport en main. Et à ce sujet, je vais revenir donc au plan Vigipirate réactivé depuis le 11 septembre. Eh bien, bien entendu, quand on attend les gens qui passent par-dessus le tourniquet sans titre de transport, c'est pas un terroriste. Le terroriste, il est bien propre sur lui, il a un costume trois pièces, il a un attaché-case, et il a un titre de transport, il est en règle, il est très convenable. Celui-là passera tranquillement, mais les jeunes des banlieues qui passent dans le métro, qu'ils soient en défaut de titre de transport ou non, il y a constamment cette espèce de trac qui pousse à la rage, et les policiers, on leur a demandé quoi depuis le mois de septembre et depuis avant déjà, on leur demande de faire du chiffre. Donc pour faire du chiffre, il faut faire du délit et constater du délit. Et comment faire cela? Eh bien, pas seulement dans les banlieues, un peu partout, ça se fait d'ailleurs avec les bons Français bien blancs, c'est de provoquer le quidam pour pouvoir constater l'outrage. Si vous insultez quelqu'un, il y aura une réponse. S'il y a une réponse, il y a outrage. Quand on attrape quelqu'un par le bras, pour le monnoter qui a refus, il y a rébellion. Et outrage-rébellion, c'est toujours 6 mois de prison à l'arrivée devant les tribunaux. Et c'est encore plus grave quand le quidam en question est un peu moins blanc que le modèle exigé. Alors c'est la société dans laquelle on vit, et ce qui est gravissime, c'est que j'ai le sentiment que mes contemporains ne s'en rendent pas compte, ne voient pas. Quand il y a dans le métro des contrôles aux faciès qui sont vraiment très durs, les gens passent, ne veulent pas voir, ne veulent pas savoir, c'est pas leurs oignons, c'est à chacun ses emmerdements. Et chaque fois on me dit oui, mais si je m'arrête, je vais avoir des problèmes. Je me souviens un jour, je passais au Forum des Halles, et il y avait un attroupement devant, il y a un grand poste de police dans le Forum des Halles, et puis il y a un militant du MIB, qui s'appelle Nordine, qui me voit de loin, moi je ne savais pas qu'il était cet attroupement, il me dit Maurice. Alors je viens, ils étaient là, il y avait un de vos copains qui était, je pense, qui était à l'intérieur de la cage en verre, Et puis les autres attendaient dehors qu'on veuille bien le relâcher. Moi, je suis venu, je suis resté avec eux jusqu'à ce que le gars ressorte. Il ne m'est rien arrivé. Il ne peut rien arriver. Mais il y a une telle lâcheté dans le comportement que les gens ne veulent pas savoir. Parce que c'est vrai que si un individu, comme disent les policiers, s'arrête pour regarder la manière dont travaille la police, on est tout de suite pris à partie. De quoi vous mêlez-vous? Laissez-nous travailler, tirez-vous. Et si on part pas, vos papiers. Et puis c'est celui-là qui devient l'adversaire tout de suite. Et puis qu'on embarque éventuellement parce qu'il a empêché la police de travailler ou parce qu'il a outragé. Je pense que si il y avait le mot était galvaudé, revient à la surface, un réflexe, une approche de comportement citoyen, tout le monde devrait s'arrêter. Et la police ne se sentirait pas maîtresse du terrain. Bon, je sais que pour moi, c'est plus facile que pour d'autres. Je vais vous donner un exemple, c'est pas le meilleur. Je partais dans un lycée pour faire une causerie avec des lycéens sur la période de l'occupation nazie. Et j'avais en poche, pour leur montrer le document, l'étoile jaune que j'ai portée quand j'avais 14 ans. J'étais sur le quai du RER au Châtelet-Léal, et il y avait des musiciens mexicains qui jouaient avec leur petite guitare en peau de tatou, les sacs de coquillage. Bon, c'était sympa, c'était convivial. Arrivent les policiers, foutaient le camp. Alors, je m'adresse au type qui dirigeait le groupe, je dis: pourquoi vous les faites partir? Ils jouent faux. De quoi vous mêlez-vous vos papiers? Alors, brusquement, je me suis rappelé que j'avais cette étoile dans la poche. Alors, j'ai sorti l'étoile, puis je lui ai montré l'étoile. Oh, ça va, ça va, ça va. Bon, ils ont des mémoires, on leur a appris, ils savent ce que c'est. Mais, bon, mais, c'est vrai que c'est facile pour moi. Mais, je pense que s'il y avait ce réflexe de ne pas laisser faire la police, et bien, les choses se passeraient certainement beaucoup mieux. Il y a une amie qui un jour assistait à un contrôle d'un jeune Algérien dans un couloir de correspondance au métro, dans le métro à la station Nation, mais un contrôle d'une violence épouvantable comme on en voit souvent dans le métro parisien. Elle regarde et elle dit au policier: mais vous ne pourriez pas vous conduire d'une manière plus convenable, moins violente avec ce garçon? Vos papiers. Alors, elle sort sa carte d'identité, c'est une belle blonde qui a les yeux verts. Elle donne sa carte d'identité, il y avait une petite policière dans le groupe. Et elle lui dit: ah, excusez-moi, c'est trivial, tu baises avec les Arabes. Cette dame avait été mariée avec un Marocain, qui est divorcé, elle avait gardé son nom. Bon. Elle a hurlé, on peut pas supporter des choses comme ça. Elle a été menottée, traînée au commissariat de police, j'ai assisté à son procès, elle a eu 5000 francs d'amende pour outrage. Ça, c'est le pouvoir illimité de la police. Alors, il n'y a pas que le pouvoir, il y a la morgue, il y a cette espèce de comportement du policier qui est sûr de son pouvoir, qui a tous les pouvoirs à l'endroit où il se trouve, où il dit le droit, où il invente le droit, parce qu'il n'y a personne pour le contredire, parce que la loi, c'est lui. Autre exemple, tout à fait différent, quand Pasqua était au ministère de l'Intérieur en 94-95, il y a un groupe qui avait sorti des affiches où on voyait le profil de Pasqua avec la légende en dessous: souriez, vous êtes filmé. Donc des lycéens ont été interpellés, et ça c'était un peu partout en France. Et j'en ai rencontré à Orléans, à Besançon, il y en avait à Lille qui ont eu affaire à la police à cette époque. Ils collaient ces affiches, sont arrivés des policiers: vous n'avez pas le droit de coller ces affiches. On n'a pas le droit de moquer le ministre de l'Intérieur, ça c'est du droit inventé par les policiers. Et si vous continuez, on préviendra vos parents, on préviendra vos chefs d'établissement. Là, c'est ce que je disais, on invente le droit en marchant, et le droit policier prime sur tout le reste. Et c'est, on inculque à la population un état d'esprit qui fait que, contre vents et marées, il faut respecter la police. C'était leur propre dernière revendication. Ils voulaient pas seulement du fric, ils voulaient du respect et de la considération. Je voudrais simplement rappeler que dans les mois qui ont suivi la libération de la France, pour vous, c'est pour les plus jeunes, c'est le Moyen-Âge, c'était en août-septembre 1944, on a eu pendant quelques semaines, pendant quelques mois, une apparence de police républicaine. Ils avaient besoin quand même de se faire oublier un tout petit peu. À l'époque, pour rentrer dans la police, il fallait mesurer 1m70, pas avoir de bide, connaître les quatre opérations et avoir un peu d'orthographe, et l'école de police durait 6 semaines. Eh bien, c'était des policiers beaucoup moins rugueux que ceux que nous avons maintenant, qui font 1 an d'école de police, qui ont fait du droit, et alors qu'on n'a jamais eu une police aussi raciste, aussi violente et aussi sexiste. C'était bon, ceux de 44-45, c'était des gens d'une banalité extrême, c'était des garçons qui revenaient de l'armée et qui voulaient plus être garçon boucher, charpentier, je sais pas, ou commis livreur. Puis rentrer dans la police, la paye était pas terrible, mais ils avaient la sécurité de l'emploi. Puis ils étaient, bon, pas trop féroces jusqu'au début des années 50, c'était pas des intellos non plus. Hein. Eh bien, ces policiers-là, bon, je peux pas dire qu'ils étaient sympathiques, mais ils étaient moins mauvais que ceux qu'on a maintenant, qui sont tous à bac ou bac plus 2. Comme quoi, l'éducation n'est pas forcément porteuse de convivialité. Alors, je voudrais finir là-dessus. On tient pas ici un meeting politique, mais il faut quand même mettre les points sur les i et attribuer à chacun tout ce qui lui revient. On s'est aperçu depuis maintenant 15 ans que à chaque fois que la droite revient au pouvoir, après que la gauche ait fait ce qu'il fallait pour cela. Quand en 1986, Pasqua, avec son petit copain Pandro, ont édicté les fameuses lois contre les immigrés, qui ont transformé des immigrés réguliers en immigrés sans papier, pour certains d'entre eux. Eh bien, quand la gauche est revenue au pouvoir en 88, Mitterrand n'a pas abrogé les lois Pasqua. Je me souviens, j'étais place de la République quand il y a eu la deuxième élection de Mitterrand. Il y avait la foule, il y avait de l'enthousiasme, mais il y avait un groupe de travailleurs algériens qui était gentiment naïf, très sympa, et qui criait « On a gagné, on va rester ». Il faisait de grosses illusions parce que les lois Pasqua n'ont pas été rejetées par Mitterrand. En 94-95, ces lois-là ont été durcies, renforcées par Pasqua et par Debré en 95-96. Et pendant la campagne électorale de 1997, après la dissolution calamiteuse de Chirac, Jospin avait promis que les lois Pasqua Debré seraient abolies. Et il n'a pas tenu sa parole. Bien au contraire, on a eu les circulaires chevènements qui livraient les travailleurs immigrés sans papier, pieds et poings liés à la police. Bon, ça c'est un des aspects de ce gouvernement qui tous les 5 ans perd le pouvoir parce qu'il fait ce qu'il faut pour ça. Et ce gouvernement socialiste, avec la gauche plurielle derrière, nous a doté depuis le 30 octobre d'une loi dite loi sécurité quotidienne, LSQ, qui instaure un véritable état d'exception sous couvert de lutte contre le terrorisme, alors qu'il y a plus de... On n'a pas arrêté un terroriste en France, le seul Français a été arrêté aux États-Unis. La police n'a arrêté personne, ni dans le métro, ni dans les aéroports. Mais cette loi a surtout servi à traquer les sans-papiers, à pourchasser les jeunes des banlieues. Et on en a pour 3 ans, jusqu'en 2003, de cette loi sécurité-liberté, que la gauche qui va quitter le pouvoir va léguer à la droite, qui va l'utiliser, la renforcer, et peut-être mettre bon nombre de gens qui vivent dans ce pays dans une situation abominable. Alors, que dire de plus ? Je crois que j'ai dit l'essentiel, et que le pire dans ce domaine, c'est que la gauche veut toujours montrer à la droite qu'elle est capable de faire aussi bien et peut-être mieux.